Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre podcast Positive Leadership, le podcast qui vous aide à progresser en tant que personne, que dirigeant, mais aussi en tant que citoyen au sens le plus large du terme. Aujourd'hui, je me trouve dans l'agence de création Cosa Vostra à Paris avec Mathieu Stéphanie, animateur du podcast Generation Do It Yourself et serial entrepreneur. Mathieu est quelqu'un qui croque la vie littéralement à pleines dents. Il a un immense esprit d'initiative et c'est un vrai plaisir d'être avec lui aujourd'hui dans son propre studio, avec son équipe, en plein travail, juste de l'autre côté de la vitre de ce studio d'enregistrement. Et ce que j'attends vraiment de cette conversation, c'est d'en savoir plus sur sa philosophie personnelle. Do it, carpe diem, faire de chaque jour une opportunité. D'où lui vient cette confiance en lui ? Quelles pratiques utilise-t-il pour construire, maintenir son état d'esprit positif et pour avancer avec succès en toutes circonstances? Et comment sait-il gérer les hauts et les bas, tant émotionnels que financiers, eh bien, qui sont le quotidien, bien sûr, d'un entrepreneur en série? Mathieu, je suis extrêmement heureux de t'accueillir, non pas chez moi, mais chez toi, pour ce podcast. Merci Mathieu.
Ben, merci de me recevoir. Tu me vois intimidé. Déjà, j'avoue que te recevoir ici, et je suis très touché. J'ai eu la chance de déjeuner avec toi juste avant.
Juste avant, on disclose ça. Oui.
Et je suis très touché de pouvoir faire ça avec toi parce que à la fois, je nous sens très proches. Et c'est intéressant aussi, très loin, mais je dis pas ça pour mettre une barrière. Au contraire, ouais. C'est plus sur le... Tu vois, quand tu m'expliques presque 40 ans chez Microsoft, ça m'impressionne, mais vraiment. Et c'est une boîte que je te le disais, que j'admire plus que tout, ouais. Que je respecte, qui a eu un parcours remarquable, aussi cabossé par moments.
Oui, bien sûr.
Cabossé aussi ouais. Par la presse par moments aussi.
Réputation, innovation, ouais. Challenge, ouais.
Et qui est si grande et voilà, qui a tellement d'expérience que j'ai l'impression, moi, juste moi, un petit bricoleur à côté.
Non, tu as passé l'étape de bricoleur.
Non, et c'est sympa. Et je suis très content de te rencontrer et d'avoir la chance d'échanger avec toi.
Non, très, très heureux, Mathieu, pour nous tous, pour tous nos auditeurs. Alors, Mathieu, j'écoute beaucoup tes podcasts, ta voix m'est très familière et une chose qui m'a toujours frappé, c'est ton incroyable niveau d'énergie positive. Tu es quelqu'un qui a un enthousiasme débordant, ça se ressent, pour apprendre toujours plus et une joie de vivre, je pense, qui est assez, assez contagieuse. Donc ça, c'est une bonne contagion. Et il me semble que ta philosophie que l'on vit en fait dans tes podcasts, en t'écoutant avec tes invités, et qui s'exprime aussi finalement les startups avec lesquelles tu travailles, consiste à aider les personnes, les gens, à tirer le meilleur parti de leur vie en apprenant toujours plus, en étant super curieux, de sorte qu'ils ne seront pas des spectateurs de leur propre vie, mais des participants actifs ou, ce que j'aime souvent à dire, des entrepreneurs de leur vie. Est-ce que ça reflète finalement le travail que tu fais et la mission un petit peu qui est la tienne, la vision qui en est? Et est-ce que ce que tu perçois, tu ressens, ce que tu fais aujourd'hui, et surtout l'impact que tu as auprès d'au moins 1 million de personnes, est-ce que c'est ça qui te fait vibrer tous les matins quand tu te réveilles?
Oui, clairement. Je pense que tu as bien spoté, identifié un de mes drivers ouais. importants, une de mes missions. C'est que notre vie est suffisamment courte pour ouais. que... passe pas notre vie à la gâcher.
Totalement d'accord avec toi là-dessus.
À la regarder aussi, parce qu'il y a la gâcher, la regarder. Moi, tu parlais d'entrepreneur de sa vie, mais je crois qu'il y a... Aujourd'hui, j'ai un trigger, enfin, j'ai développé un truc depuis assez longtemps, parce que je me dis que j'ai envie de quelque chose. Alors, je parle pas de matériel, hein, d'ailleurs, parce que ouais. c'est pas autant... je trouve ça vraiment très différent. Et quand je me dis, tiens, je me lancerais bien là-dessus, ou tiens, cet univers m'intéresse, j'y vais, quoi.
Tu y vas. Ouais, tu donnes les moyens d'apprendre, exactement. De comprendre, décortiquer et d'entreprendre. Mais d'abord, on va démarrer par le démarrage. C'est tes racines. Je crois que tu es né à Cherbourg, en Normandie.
Tout à fait.
Et ton père était médecin, ta maman infirmière. Tu as aussi des racines corses. Tu m'as parlé de saucisson corse aussi. Tout à fait. Je ne trompe pas. Alors, quelles sont les valeurs, finalement, que tes parents, ta famille ou les personnes qui comptent pour toi t'ont inculquées tout petit? Et quelles croyances t'ont accompagné, t'accompagnent toujours aujourd'hui dans tout ce que tu fais dans ta vie, finalement, Mathieu?
Écoute, c'est intéressant, il y a des valeurs aussi, des valeurs communes. Toi aussi, tu as un parent ou deux parents pieds noirs, je crois.
Oui, tout à fait. Oui.
Moi, j'ai des valeurs très méditerranéennes, je crois, dans ma famille qui... beaucoup de confiance. Oui. On serre la main, si on dit quelque chose en se regardant dans les yeux, oui, et ben on ne se trahit pas.
Oui, oui.
Beaucoup de fraternité, sérendipité, oui, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on va s'aider. Et puis, oui, et puis voilà, peut-être de joie et d'envie d'être heureux. Et,
oui,
et
goûter à la vie ensemble.
Goûter à la vie, oui, voilà.
Passer les bons moments ensemble. Les beaux moments ensemble.
De famille aussi. Oui. Mais la famille, quand je dis la famille, je ne veux pas que ce soit exclusif. Je, oui, crois que, tu vois, on peut rentrer dans ma famille, même si on n'est pas, on a, on mélange pas le sang.
D'accord.
Tu vois,
je comprends. Que c'est des limites. Hein,
oui, je pense qu'il faut qu'on...
Tu veux l'ouvrir, au contraire. Oui, exactement. C'est ça, tu veux l'ouvrir.
Ouais. Tu vois, c'est une des choses de Cosa Vostra, qui est la différence avec Cosa Nostra, qui sont des familles dans lesquelles tu ne rentres pas.
Oui, oui.
La Cosa Vostra, c'est une famille qui est inclusive. Qui change tout et qui est
d'accueil.
Inclusive. Et l'inclusivité, par moments, est un peu galvaudée comme terme, mais moi, je crois que j'ai ces valeurs
très fortes en moi. Ouais. En toi.
J'aime pas qu'on balance. C'est un terme qui
balance,
me pose.
Okay.
Les balances, j'aime pas qu'on... Donc, quand tu dis qui a fait ça et que j'en ai un qui me dit c'est lui...
Pointer du doigt,
ça,
oui.
Moi, ça me...
Ça t'horripile.
Donc,
ça
je leur dis... alors, après, ils comprennent pas au début, parce que tu leur dis, mais tu nous as demandé. Et tu dis, bah oui, mais en fait, tu vois, tu dis rien, puis j'aimerais bien que ce soit celui qui l'a fait qui dit c'est moi, que tu assumes.
Je me suis planté.
Je préfère qu'on assume, mais j'aime pas trop. Je trouve que cette notion de délation est quelque chose de très compliqué et qui n'est pas forcément international. Je pense que les anglo-saxons sont plus à l'aise avec ces choses-là.
Oui, totalement.
Je crois que peut-être nous, ça vient. En Méditerranée, on n'aime pas trop ça. Il y a aussi des histoires de. Je pense de Seconde Guerre mondiale qui nous ont un peu traumatisés. Mais donc ça, là-dessus, nous, on s'est toujours un peu fait remonter les bretelles. Et en Corse, tu sais, l'omerta, tout ça.
Oui, enfin,
c'est pas un truc balancé, c'est pas très bien. Donc ça, on s'est toujours un peu fait gronder quand on balançait les autres.
Quand tu commençais à pointer vers les autres, accuser les autres.
Et moi, j'aime assez cette valeur. Et après... ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser faire les gens qui font les choses mal.
Erreurs,
c'est pas ce que je dis.
Il faut savoir corriger, les coacher, assumer, les aider. Oui.
Mais si tu as quelqu'un qui fait n'importe quoi, tu peux aller te tenter toi-même.
Il faut savoir
etc.
lui parler les yeux dans les yeux, gentiment, constructivement, mais arrêter ça.
Dans un moment où il y a des tas de mouvements, tu vois, où on va éventuellement balancer son porc ou faire ces choses comme ça, je ne dis pas qu'on doit fermer les yeux sur les choses. Ce n'est pas ce que je dis.
Non, totalement.
C'est très important. Et après... dans les choses, je crois, intéressantes. Ouais. J'ai été élevé dans une obsession de sortir de la jalousie. Alors, ça, c'est marrant parce que j'en ai déjà parlé, ça a interloqué certaines personnes.
Ouais.
Il y a des familles dans lesquelles tu vas être élevé avec... si je fais un beau cadeau à un tel, je vais faire un beau cadeau à l'autre.
Ouais.
À un frère, je vais faire un beau cadeau à la sœur ou à l'autre frère parce que
on est équitable.
On doit être équitable.
Équitable.
Pour pas qu'il soit jaloux.
Oui.
OK. Et moi, j'ai appris autre chose, et je pense que c'est mieux, mais c'est parce que c'est ma famille et que c'est comme ça, probablement. Mais c'est, cette année, tu sais quoi, ton grand frère, il a eu un super cadeau, et toi, t'auras un tout petit truc.
Ouais. Et comment tu l'annonces,
ça et tu t'écrases et t'es content pour lui. Et c'est même pas t'es content pour lui, c'est t'es content pour lui. Et nous, un des trucs très forts chez nous, c'est ne regarde pas dans l'assiette de l'autre. Et je pense que, tu vois, moi, j'ai appris là-dessus. Et ça m'a aussi donné certaines valeurs de me dire ce qu'il y a dans mon assiette, c'est quoi, je vais aussi aller le chercher moi-même. Alors, pas le piquer dans l'assiette des autres, mais le construire, l'élever.
Non, j'aime bien ça. Et je sais que c'est pas facile dans une famille, dans une équipe, dans une organisation de faire ça. Parce que, voilà, tout le monde cherche des signaux et les interpréter en permanence. Et donc, d'être capable de faire ça et de valoriser, d'avoir le beau cadeau l'année suivante, j'espère.
Exactement.
Pour celui qui l'a pas eu ou celle qui l'a pas eu.
Mais c'est pas un dû.
Non.
C'est pas un dû. Et voilà.
Il est vraiment fascinant de voir quels moments de l'enfance de Mathieu sont restés gravés dans sa mémoire et comment il s'appuie encore sur ces moments pour façonner ses valeurs. Nous savons tous que c'est une mauvaise idée de se comparer aux autres. Et pourtant, la plupart d'entre nous avons des attentes que l'on croit légitimes, qu'il s'agisse de cadeaux, de soutien émotionnel, de reconnaissance, d'argent, de statut. Eh bien, lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, cela nous blesse. Mettre de côté la jalousie, se concentrer sur sa propre vie et sur ce que l'on peut en faire, sa propre assiette, comme dirait Mathieu, est un mode de vie beaucoup plus sain et qui aboutit à de bien meilleurs résultats. Une autre chose qui me frappe vraiment, c'est l'importance que Mathieu accorde à la confiance. La confiance et les relations personnelles sont fondamentales pour la solidité de ses réseaux et on le ressent lorsqu'on entre dans le bureau de Cosa Vostra. On y trouve une véritable ambiance familiale. Cela me rappelle une conversation que j'ai eue récemment sur le podcast avec Stephen M. R. Covey à propos de la confiance et de l'importance, en tant que leader, de construire une relation de confiance réciproque. Ainsi, si je veux que l'on me fasse davantage confiance, eh bien, je dois montrer que j'en suis digne. Mais aussi que je suis moi-même prêt à faire confiance aux autres.
J'ai entendu dire que tu avais des parents qui de la chance d'avoir eu des parents qui te soutenaient, qui t'aimaient, qui te suivaient aux quatre coins de Normandie, de la France, quand tu jouais au hockey, je crois.
Ouais.
Et qui même t'envoyaient dans des familles anglaise ou américaine, je crois, même américaine, carrément,
américaine.
Pour apprendre les langues, quoi, les pratiquer, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles. Alors, dans quelle mesure, justement, tes parents, parce qu'ils ont fait pour toi, la façon, ont-ils vraiment généré en toi cette confiance en toi? Parce que pour être entrepreneur, je pense qu'il y a une qualité essentielle, ouais. C'est une confiance en soi, je dirais pas limitée, mais quand même très, très grande. Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé par toi-même aussi, quoi, finalement?
Je pense qu'ils ont bien aidé tout ça. Ils m'ont élevé dans un, je sais pas si c'est un narratif, une éducation en tout cas qui est de se dire que tu peux faire les choses par toi-même.
Par toi-même.
Je crois que j'ai eu la chance, en effet, de partir à l'étranger assez tôt et sur lequel tu vas vite avoir une forme d'indépendance. Mm-hmm. Là-dessus, j'ai eu la chance d'être aussi le dernier de la fratrie. Donc, mon grand frère, Sébastien, lui, n'est pas parti aussi tôt. Je crois qu'ils ont eu un moment, ils ont découvert, ils se sont dit « Ah, mais on l'a envoyé là, c'est bien. » Du coup, j'ai profité de l'effet d'expérience. Il est parti plus tard.
Ouais.
Moi, je crois que c'était dès la fin de la cinquième, de la quatrième, je crois même. Un mois à Kansas City, je veux dire, j'ai pris
Kansas
une claque.
City, wow.
et en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Et le hockey sur glace aussi, pendant des années, j'étais sportif à un certain niveau et sur lequel tu as un apprentissage d'esprit d'équipe et de progrès aussi. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, j'ai commencé, j'étais nul, quoi. Bon, comme beaucoup, mais il y en avait vraiment qui étaient meilleurs que moi.
Ouais.
Et donc là-dessus, mes parents m'ont toujours donné une forme de confiance en me disant, en fait, je vais pas être fort à ta place. Mm-hmm. Mais tu peux être fort.
C'est
tu peux faire partie des meilleurs.
Ça t'appartient.
En revanche, je bosse, quoi. Tu
c'est à toi de décider.
Et ça, moi, je le vois avec. C'est vraiment un truc que je reproduis aujourd'hui. J'ai ma fille qui a 11 ans. Elle veut être pro en foot.
En foot, super.
Ouais.
Dans quelle équipe elle joue?
Elle joue à la Salésienne de Paris.
Salésienne, je connais pas encore.
C'est dans la porte d'Anières, dans le 75.
D'accord.
Une équipe verte et noire. Et elle a commencé il y a 18 mois.
Ouais.
Elle jouait un petit peu avant, mais elle n'était pas très forte. En 18 mois, elle fait partie de l'équipe A, etc.
Ah oui,
et moi, je lui dis, tu sais quoi, chérie? Tu veux être pro? Je suis totalement OK avec ça.
Ouais.
Je suis même à fond derrière toi.
À fond,
et je te fais confiance.
Plus,
etc.
Tu sais qu'il y a
revanche,
en plus.
Juste une chose, je ne serai pas pro à ta place.
Ouais.
Donc, si tu veux être pro, moi, à chaque entraînement, quand sa coach l'année dernière me disait Louise, elle a beaucoup d'envie, mais en fait, à l'entraînement, elle parle beaucoup. Moi, les seuls moments où je lui remonte les bretelles, je lui dis écoute, tu sais quoi? Le jour où tu ne seras pas pro, tu viendras me dire ouais, je ne sais pas quoi, tu te plaindras, ce sera que de ta faute. Si tu arrêtes de parler à l'entraînement, qu'à chaque fois qu'il y a un truc.
Tu te prends en charge, tu la responsabilises.
Tu le responsabilises. C'est comme ça que tu arriveras à être pro. Donc, c'est plus, mes parents, je crois que là-dessus, ils m'ont donné les clés. Et après, tu en fais ce que tu veux. Ça vient aussi de toi-même. Mais ils m'ont donné des bonnes clés. Et avec de l'assurance et de l'amour, je pense que tu fais beaucoup de choses.
L'assurance, de l'amour, de la confiance en soi, et puis un esprit aussi compétitif, dans le bon sens du terme, j'ai l'impression. Parce que pour être entrepreneur, il faut aimer la compétition quelque part. Alors, tu as quitté Cherbourg vers 18 ans pour étudier dans une école de commerce à Paris.
Tout à fait.
Où tu as obtenu, je crois, de très bons résultats. Tu étais parmi les tops de la promo, je crois.
Alors, je vais rétablir quand même un peu la vérité parce que je crois que je suis parti très très loin et cette école s'appelle l'IPAG.
Oui.
Qui avait un bon niveau à l'époque, qui a eu des hauts, des bas.
Oui,
je crois qu'en ce moment, ils sont average,
okay.
C'est une bonne école.
Oui.
Il y avait en tout cas à ce moment-là un niveau intéressant. Je crois qu'ils avaient une spécialité qui était de prendre ce qu'on appelait, nous, des peu mieux faire.
Ah,
donc, tu étais parmi les gens qui
ont du potentiel.
Tu as navigué toute ta scolarité.
Ouais.
Tu arrives au bac, tu as ton bac avec 12, 13, 14. Voilà. Donc, ça passe bien.
Mais on sent que tu en as.
Sans rien faire.
La réserve.
En gros,
peu,
la plupart d'entre nous, on n'avait jamais rien foutu.
Ah oui, d'accord.
Pas tous, hein, mais une bonne partie d'entre nous, on n'avait jamais rien foutu. Et en fait, petit à petit, ils avaient une sorte de méthode, de framework, où d'année en année, ça se resserrait un tout petit peu. Et moi, j'ai pris vraiment le goût au travail là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'expérience en entreprise tous les ans. Et premier stage, moi, ça paraît bête ou loin. Non, ça paraît pas du tout bête. J'ai aucune honte. Et au contraire, je suis très fier. Mais mon premier stage, c'était chez Darty.
Ouais,
j'ai appris ce que c'était que de vendre à des gens... une télé, un magnétoscope.
Ouais, tu as un bel épisode là-dessus sur tapis, ses débuts.
Ouais,
hein,
exactement.
De télé.
Ça. Et j'ai adoré ça. Mais c'était vraiment. Ouais. Donc, et puis après, j'ai fini, j'ai fait des stages à New York, j'ai fait des stages. Donc, tu vois, tu pars dans un truc où petit à petit. Et en effet, sur ma dernière année, j'étais dans les tout meilleurs de ma promo. Donc, mais parce que j'avais envie de bosser. J'étais dans une spécialisation création d'entreprise. Je commençais
déjà,
à me sentir
déjà,
dans mon bain.
Déjà, tu
t'es... C'était cool, ouais.
Alors justement, tu as obtenu ton premier job en aidant littéralement à lancer Métro. Pour
le
nos auditeurs.
Gratuit.
Premier quotidien gratuit de France, après d'autres pays aussi. Et qui était distribué notamment, je me rappelle très bien, à la sortie des métros. C'était assez incroyable. C'était un phénomène à l'époque incroyable. L'idée était simple. C'est des informations gratuites, hein, au bon endroit, au bon moment. Et tu as travaillé très dur. Tu as dit 80 heures par semaine. Ça part aujourd'hui. On se dit jamais. Et bien sûr, ça a été un énorme succès. Alors, qu'est-ce que tu as appris de cette start-up, à la fois le meilleur et le pire? Voilà. Tu as les deux côtés de la pièce, quoi.
Ouais. C'était une super époque. Honnêtement, Métro, c'est une boîte suédoise qui a un... Mais c'est la Suède. Alors, on peut voir la Suède comme un pays parfois très socialiste. Et voilà. Et là, c'était les Suédois plus américanophiles. Ouais.
Très entrepreneur.
C'était très entrepreneur. Super hardcore. La famille Steinbeck, qui a un groupe qui s'appelle Kinnevik. Je ne sais pas si tu connais Modern Times Group.
Oui,
dans les médias. Ouais. Ils avaient Télé 2. Ils avaient énormément. C'était vraiment une constellation d'entreprises. Et ils avaient Métro dans tout ça. Et une entreprise dans laquelle fallait l'excellence de la vente était vraiment quelque chose. Et du produit, hein, parce que c'est quand même un bon produit. Et donc, pendant des années, on nous a vraiment biberonné à la vente. Moi, j'ai appris à vendre. Et j'ai trouvé ça assez cool. Mais en revanche, c'était carotte-bâton, quoi. C'est vrai que c'était... je suis rentré au biberon, quasiment, comme un bébé dans la boîte. Et puis, ils m'ont donné un job qui me semblait vraiment nul, qui était ce qu'on appelait télésales. Donc, au début, j'étais que au téléphone. Donc, tu te dis, attends, j'ai fait une école de commerce pour finir télésales. Pas terrible. Et il m'avait dit, si ça se passe bien, après, tu peux
venir sur le terrain, voir des clients.
Et puis, il y a l'international,
etc. Montrer le chemin de carrière et tout, déjà.
Exactement. Montrer un chemin de carrière. Je me suis dit, bof, ils se foutent peut-être un peu de moi, mais...
Mais bon, je vais y aller.
J'aime bien les valeurs de la boîte, je les sentais bien. Ça avait l'air vraiment très, très dynamique. Et puis, j'étais le premier employé. Je suis parti là-dedans et il s'est trouvé qu'en... En même pas un an, j'avais le plus gros portefeuille de la boîte. Plus en télésales, en sales. Je gérais une agence d'achat d'espace qui s'appelle Cara. Et on s'éclatait. mais en revanche, autour de moi, tout le monde se faisait virer. C'était vraiment... Pour monter, en fait, ce qui était drôle, c'est que t'avais ceux qui restaient.
Le système d'élimination, quoi.
Exactement.
En fait, hein, c'était vraiment
Donc, c'était hardcore.
Et tu as pris le virus de la vente, là, alors?
J'ai pris le virus de la vente. J'ai pris le virus de la vente et puis de l'animation, et puis on était toujours dans une forme d'équipe, alors il y avait vraiment de la grosse compétition.
Oui, c'est ça, entre celui qui allait atteindre son quota ou pas, peut-être,
exactement.
Celui qui est resté ou pas.
La plupart du temps, ça se passait bien. Moi, j'avais vraiment mes frères d'armes, mes sœurs d'armes.
D'accord.
Et puis, il y en avait qui arrivaient, qui étaient plus vieux et qui disaient, oh là, le petit Stéphanie, il a un trop gros portefeuille, je vais lui piquer.
Je vais lui couper ses...
Et en effet, tu leur disais à un moment, tu les prenais dans un couloir entre quatre yeux, tu leur disais, écoute, chérie, c'est simple. Soit t'es avec moi, soit t'es contre moi.
Ouais.
Mais en revanche, si t'es contre moi, on va faire la guerre, quoi.
Alors, tu as des moments aussi difficiles, je crois, notamment, je vais pas le dévoiler, tu vas m'en parler du départ, parce que ça s'est fait de manière un peu.
Tout à fait, c'est vrai.
Un peu dramatique. Explique-nous un peu ce moment, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu.
Écoute, je dois dire que même si j'ai toujours été difficile à manager, je crois, ce qui fait que c'est une des raisons que je suis entrepreneur.
D'être manager toi-même.
Voilà. J'aimais cette boîte. Ouais. Tu vois, j'aimais cette boîte. Vraiment, j'avais tellement donné pour cette boîte que, comme tu aimes, je sais pas, Microsoft, j'imagine. J'avais, du sang vert. C'était un logo vert. J'allais en Suède souvent. J'étais vraiment dedicated. Et la dernière année où j'étais chez Metro, j'étais à Londres et je travaillais pour la holding Metro International. Avait 24-25 pays à ce moment-là.
Ouais.
Et mon job était de lancer des nouveaux pays, partiellement, mais surtout aussi de vendre Metro sur des campagnes monde.
Ah, donc, oui, d'accord.
J'allais voir Kia, j'allais voir Samsung, j'allais voir plein de grandes marques et je leur disais écoutez, si tu enlèves 20 minutes de ton plan média en Espagne, je t'offre la Pologne.
La
tu vois,
Pologne,
c'était sur de négo.
Tu faisais des deals comme ça.
Voilà, donc on essayait de. Là, tu te battais contre des concurrents. C'était assez. Assez, moi, j'avais 24 ans, hein, donc c'était assez cool de pouvoir d'avoir un job comme ça.
Tu as beaucoup appris là, à cet âge-là.
Et un jour, je suis revenu d'Allemagne. Et puis, le lendemain matin, il y avait du champagne, de la veille, etc. Tout le monde était très content. Ils avaient fait la fête.
Okay.
Et moi, j'avais signé le plus gros deal la veille en Allemagne de l'histoire de métro. Et puis, je vois l'assistante qui s'appelle Jane Nikanovic. Je m'en souviens très bien d'ailleurs, qui était l'assistante de Pelle Thornberg. Je m'entendais très bien avec Jane. Puis, on était souvent les deux premiers au bureau le matin.
D'accord.
Et je lui dis, ah, vous avez fêté quoi, etc. Elle me dit, ah, bah ouais, ton boss a fait un super deal hier. Là, je me dis... Quand même un super deal, ça. C'est bizarre.
Parle-moi de ce deal.
Voilà, parle-moi de ce deal. Oui, machin et tout. Je suis, ah ouais, d'accord. Elle m'a vu monter. Je pense que je suis devenu tout rouge. À mon avis, j'avais de la fumée qui sortait des oreilles.
Là, tu t'es dit, oula.
Et alors, je me suis mis à mon poste. Lui, il était en face de moi. J'ai attendu qu'il arrive. Quand il est arrivé, je lui dis, je crois qu'il faut qu'on se parle.
Il faut qu'on s'explique.
Il n'a pas tout de suite compris.
Ah oui, vraiment, d'accord.
Et on s'est engueulé. Honnêtement, la maternelle, je crois que c'était affreux.
Parce qu'en gros, il avait annoncé
à tout le monde qu'il avait fait le plus gros deal.
C'est lui qui a fait le deal.
En fait, il m'avait pas du tout mentionné.
Même pas mentionné.
Non. Wow. Et donc, en fait, il avait cette... Oui, c'est un truc de management un peu bizarre.
C'est le 101, hein, manager, d'être là pour valoriser.
Je crois qu'il était insecure total.
Ah oui, totalement.
Il avait toujours besoin, il l'avait fait à d'autres dans l'équipe, mais dès qu'il y avait des belles choses, il leur piquait, il se les mettait au crédit à lui-même.
Terrible.
Et donc... Du coup, il a fini, on s'est insulté comme des gosses, vraiment. Et il a fait une erreur magistrale, c'est qu'il m'a envoyé un email disant écoute, j'attends ta démission et si tu me l'envoies
carrément.
Pas, je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu partes.
Et il t'a écrit.
Et si tu veux, en Angleterre, autant ils sont pas très. C'est moins social qu'en France.
Oui, dans le traitement.
En revanche, le.
Au départ, oui, mais par contre, ce sujet-là.
Le harcèlement, ce genre de menaces, ça plaisait pas du tout.
Totalement.
Donc, en gros, j'ai imprimé l'email, je me le suis envoyé sur mon Gmail à l'époque.
Ouais.
Et puis, je suis immédiatement allé voir, mais vraiment dans la foulée. Et je me souviens, je vois encore sa tête quand il tapait le mail super vénère devant moi. Je vois sa tête, c'est affreux.
Tu dis, je sais ce qu'il est en train de faire.
Je savais pas ce qu'il était en train de faire. Non, je le voyais, mais rouge et machin, il tapait. Et puis, je reçois le truc, je me dis, qu'est-ce que
je fais?
Et je suis allé voir la RH, que je n'ai jamais allé voir. Et puis, je lui ai dit, écoute, j'ai ça. C'est quoi? J'avais déjà une idée de business. Je lui ai dit, écoute,
j'ai pas envie de me battre.
Oui. Et on trouve une option. Voilà. C'était un mardi matin.
D'accord.
Et le jeudi, j'étais à Paris avec mon camion de déménagement, etc. Elle m'a dit, bon, c'est bon, là, c'est plié, etc. Bon. Et lui a fait 2-3 mois de plus et puis il s'est fait virer.
Ça ne me surprend pas, ça aurait été grave quand même, ce qui reste plus longtemps. Ben voilà, c'est le meilleur et le pire toujours de start-up aussi. Je pense qu'il y a plein d'histoires comme ça que tu connais, mais c'est sacrément formateur pour toi aussi.
Il n'y a qu'un endroit où ça change dans la tête l'avenir, c'est dans ton cerveau. Enfin, tu vois.
Totalement.
Et assez vite, là, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, c'est la meilleure opportunité de ta vie.
Ouais.
Vas-y, go. Je suis parti et en fait, ça a été un déclic monstrueux. Et en fait, j'aurais pu partir en me disant mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est nul, j'aurais pas dû, etc. Ouais. Je crois que vraiment,
ça a été
la semaine d'après, j'étais
la meilleure décision qui a pu être prise contre toi finalement.
Exactement.
Et pour te relancer dans cette aventure entrepreneuriale.
Ouais.
Nos vies sont parsemées d'épreuves et de mésaventures. Qu'il s'agisse d'un problème inattendu au travail, comme celui qu'a connu Mathieu, ou d'un contexte général difficile, la capacité de transformer ces blocages en moments d'opportunité grâce aux techniques de la pensée positive est incroyablement bénéfique. C'est normal d'abord de se sentir en colère quelquefois, frustré, déçu, triste, effrayé, et on ne peut pas échapper à ces sentiments. Mais il faut absolument savoir aller de l'avant. Lorsqu'un défi se présente, regardez-le sous un jour positif. Ne le considérez pas comme une menace, mais comme une chance de progresser.
Début des années 2000, alors que tu étais encore donc au début de ta vingtaine, hein, je crois, Il y a la téléphonie mobile qui commence à vraiment exploser. C'est à l'époque le Nokia 6750 en 2002. Voilà, le 3G qui est arrivé, etc., etc. Et surtout, donc, c'est le début vraiment de l'Internet mobile. Bon, je connais ça aussi, bien entendu. C'était assez étonnant. Et ça ouvre la voie ensuite au smartphone. C'est clair. Et là, en fait, pour tel auditeur d'aujourd'hui, une nouvelle génération, ils disent, bon, c'est improbable tout ça. Mais à l'époque, c'était incroyablement révolutionnaire puisque tu pouvais avoir des gens ordinaires pouvaient finalement prendre des photos avec leur smartphone et en faire quelque chose d'exceptionnel, finalement, de ces photos. Et je crois que tu as saisi cette idée ou cette opportunité de dire, mais finalement, ces utilisateurs, ces citoyens, ces personnes, c'est peut-être des professionnels en, comment dire, en devenir. Et explique-nous, parce que explique-nous comment est née cette start-up générée par user-generated content, comme dit, par l'utilisateur, exactement. Le contenu. Parce que c'était le début de cette histoire.
C'était le début, ouais. Et tu as raison. Le téléphone qui a fait la différence, je m'en souviens, ouais. Pour moi, c'était le 9510.
9510.
Et c'est le premier qui avait un appareil photo à peu près décent. Et faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, on a un monde et un réflexe où on prend quelques photos par jour. En 2000, donc je parle de ça il y a 23 ans, je pense que la majorité des habitants du monde prenaient 0 photo par an. Tu vois, en moyenne, ils en prenaient peut-être deux ou trois. Enfin, il fallait une pellicule. Faut quand même se rendre compte qu'il y a 23 ans...
Je viens de le rappeler, je me rappelle. J'avais mes rouleaux aussi.
Il fallait une pellicule, t'achetais une pellicule, tu la mettais dans un boîtier.
C'est un investissement.
Et tu prenais tes 24 poses ou 36 poses, donc t'avais 36 photos.
Ouais.
Ça coûtait cher.
C'était cher.
Et tu devais aller les emmener à développer, les emporter à développer, et après tu récupérais tes photos.
La magie, ta pochette, machin.
Donc, autant te dire que t'avais pas un appareil photo sur toi tout le temps.
Non.
Et sont arrivés ces appareils. Et à ce moment-là, je me souviens, j'étais allé voir des fonds qui m'avaient dit « Non, mais l'appareil photo sur le téléphone, ça n'a aucun avenir. Enfin, je vois pas ce que les gens vont prendre en photo. Qu'est-ce que tu veux faire avec un... Et moi, ça me mettait dans le doute. Tu vois, je me marre. Là, aujourd'hui, après coup, tu dis « Mais ils sont nuls. » Mais en fait, même moi qui étais dedans, qui croyais très fort, je me disais « Oh, ces mecs, ils sont tellement forts. Ils ont investi dans tellement de boîtes. S'ils me disent ça, ils ont peut-être raison. » Et alors, ça m'a appris un truc, c'est que déjà, quand tu ta croyance à toi, il y a des moments où il faut quand même t'y accrocher et te dire ça.
Ferme.
Et nous, on s'est dit, en fait, il va y avoir un gros... Moi, je venais de la presse et des médias, et je me suis dit, en fait, le plus gros producteur de contenu, ça va être l'amateur. Et l'amateur, il vit des choses. Alors, j'avais vécu les événements dramatiques de Londres en 2005 et cette série d'attentats en même temps. Et de cette série d'attentats, les seules et uniques images qui étaient sorties, je les vois encore, dans le métro, ce bus qui était complètement éventré, etc., etc. C'était que des images d'amateurs. Après, ils avaient tout fermé, on pouvait plus arriver dans. Et en fait, je me suis dit, mais ça va être ça, en fait, ça va être ça. Donc, j'aurais pu créer YouTube. Malheureusement, je me suis dit, moi qui venais de, de droit géré et de choses comme ça, je me suis dit, je vais dire aux amateurs d'envoyer des photos et des vidéos de leur contenu. Je vais leur donner une licence. Je vais signer une licence avec eux. Je vais les revendre à la presse et aux médias du monde entier.
D'accord.
Pourquoi j'ai pas créé YouTube ou Dailymotion? Parce que je me disais, mais en fait, j'ai pas les droits. C'est là aussi l'autre chose que j'ai pu apprendre.
Tu t'es censuré un petit peu.
Tu te censures. Mais d'ailleurs, les avocats autour de moi me disaient, mais tu peux pas faire ça. T'as pas les droits,
bien sûr.
Et alors que ces boîtes-là sont nées sur des grosses copyright infringements avec des grosses problématiques de droits sur lesquelles ils ont.
Ce qui s'est répété dans l'histoire ensuite sur d'autres sujets.
Et donc, il y a des moments, en fait, faut aussi te dire, ouais, mais je suis dans un changement de paradigme. Donc, les droits, je m'en fous.
On y va et ensuite, on va négocier ça ensuite.
Exactement.
Alors, je crois qu'il y a des moments incroyables. Une interview de Jérôme Kerviel, Galliano aussi, pour ceux qui ne souviennent plus, l'ancien directeur artistique de Dior. Je crois qu'il avait un peu bu, mais en général, bon, il a tenu des propos du genre, je crois, Love Hitler, des trucs improbables, le printemps arabe. Donc, tu as capturé quand même des moments d'histoire, j'allais dire, des moments incroyables.
Ah, on a capturé des moments incroyables. On a des choses qui sont... Alors, il faut voir que la news, c'est ce qui marque, c'est soit dur, soit sulfureux. C'est rarement quelque chose de très joyeux.
C'est pas vraiment positif, généralement. Ceux qui cherchent l'impact positif par les photos. Malheureusement.
Alors, tu peux, évidemment, on aime ça, avoir des belles photos de ses proches, etc. Mais dans l'actualité, ce qui marque, c'est un tsunami. C'est évidemment. Alors, il y a des choses, finalement. Le printemps arabe, c'est, c'est quelque chose qui peut être considéré comme assez positif quand même, mais
même s'il y a eu aussi des
morts par dizaines. Et donc on a capturé quand même beaucoup de choses jusque, tu vois, je sais pas, je pourrais t'en citer plein. L'hélicoptère qui évacue Michael Schumacher sur son accident. On va avoir en effet, alors des célébrités à l'appel qui font tout et n'importe quoi. et puis on va avoir aussi, en effet, John Galliano à la terrasse de la Perle, ce café dans Paris, qui lui a valu beaucoup derrière. Et voilà. Et nous, on versait à notre contributeur. Les deux tiers de ce qu'on gagnait.
C'est sur deux tiers, c'est ça le modèle. Exactement. En fait, deux tiers, un tiers, d'accord.
Exactement. Okay. Donc, on avait une des plus grosses agences de presse au monde.
Ah, c'est super.
Avec, on recevait entre 2 et 3 000 séries de photos par jour. Donc, c'était assez.
Donc, ça s'appelait Citizen Site, je crois. C'est ça. Alors, c'était la première start-up, donc un très beau succès. Depuis, tu as été impliqué dans plein d'autres startups. Certaines vendent des produits, tu as eu des bracelets en plastique, je crois. Une histoire où tu avais une fin de stock, je crois, de 100 000, je ne sais plus combien, tu as raconté.
Qui m'a coûté très cher.
T'a coûté cher, donc c'était une aventure. Tu as beaucoup appris. Tu as aussi, tout à l'heure, je te donnais une carte de visite en braille. Toi, c'est des cartes de visite métalliques.
Ouais, je t'en donnerai une.
Voilà, j'aimerais vraiment l'avoir une de collection.
J'ai été leader mondial de la carte de visite en métal. C'est une niche complètement débile, mais c'était une niche qui était lucrative, qui m'a appris le SEO, la vente en ligne, la création de sites, etc. J'ai fait en même temps ces bracelets, j'ai fait en même temps du conseil, j'ai fait en même temps. Et en fait.
Tu as fait de l'e-commerce, etc. Donc tu as appris les bases de ce qui est devenu Causa Vostra.
Exactement.
Et j'ai cru comprendre que le nom t'a été inspiré, tu l'as un petit peu dit, par la sublime. Moi, c'est un de mes films, je dois dire, je suis un cinéphile. Hein. Je crois que tu aimes beaucoup le cinéma aussi. Oui. Le Parrain, c'est pour moi, voilà. Francis Ford Coppola, Godfather, c'est. Voilà, je l'ai revu.
Je sais pas de quelle année, ça doit être des années 80, parce que même pour moi, c'est un vieux film.
Oui. Je vais te proposer un mini quiz. C'est très simple, hein, vraiment. Alors, on se rappelle, le Parrain, c'est la famille Corleone. Hein, ils ont 6 valeurs dans cette famille. La tradition, la force, la discrétion, l'honneur, le respect et la loyauté familiale. Alors, ce serait quoi ta valeur centrale, cœur fondatrice de Mathieu Stéphanie
si. Tu sais que la loyauté, c'est quelque chose de très important. Et familial, je pense que c'est trop parce que tu choisis pas ta famille et voilà. Mais je pense que quand tu commences à créer des liens avec des gens...
La loyauté est quelque chose qui...
Le respect, évidemment, c'est quelque chose. Ouais. Mais la loyauté, je pense, c'est... En fait, quand tu... je trouve que... J'essaie d'être quelqu'un de loyal et en qui tu peux avoir confiance. Et moi, en fait, tu vois, aujourd'hui, j'ai un modèle économique avec des sponsors, exemple. Quand je te parle d'un de mes sponsors, c'est que je le kiffe. Et si j'ai des
sponsors,
je les choisis. Et si j'ai un moment, j'ai pas de sponsor, et ben, je préfère pas gagner d'argent que de dire à tous mes auditeurs,
je le fais de façon forcée parce que j'en ai besoin.
Il est très cool. Bon, à part si c'est 1000, peut-être que parce que vraiment j'aime bien. Non, mais en plus, tu vois, je suis à moitié sérieux. J'exagère un peu. Il y en aura peut-être bien, mais.
Et donc la loyauté. Alors familiale au sens où tu l'as défini tout à l'heure, c'est-à-dire tu as une famille élargie.
Oui.
Ça tirait bien. Alors on continue. Alors, parmi les citations les plus célèbres du film, je vais en citer 4 parce qu'il y en avait d'autres, mais j'en ai sélectionné déjà 4. Quelle serait la citation que tu rajouterais donc comme signature de la marque Cosa Vostra?
Intéressant.
Okay, encore plus loin. La première, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Le problème, c'est quand on sait ce qu'il y a derrière.
Tu fais des offres aussi à tes clients. Ne dis jamais ce que tu penses et laisse la justice aux autres. Alors, quand je t'ai dit signature de Cosa Vostra, après tu pourras me donner la tienne si elle est différente.
La deuxième, c'est quoi, tu m'as dit?
Ce n'est pas personnel, c'est strictement professionnel. Et la première, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Je serai sur la première, évidemment.
Ah, d'accord.
Mais,
élaborer un petit peu, parce que la première, il peut y avoir
il peut y avoir un flingue ou une batte de baseball investi comme ça.
Un calibre planqué dans les WC avec Al Pacino qui va le chercher, et voilà.
Mais tu sais que. La deuxième est quelque chose que j'ai appris par la force des choses aussi. C'est que il y a énormément de situations qui sont pas personnelles et professionnelles font que tu vas avoir des chemins qui se séparent ou tu te sépares de gens que tu aimes,
que tu aimes, que tu
fais beaucoup pour toi. mais qui, pour le bien de l'entreprise,
oui, oui.
Ne sont plus les bonnes personnes. Et
dans,
oui. C'est toi, hein, d'ailleurs, ça peut être toi à un
bien
moment.
Bien sûr, ça, c'est, plus, c'est dur aussi de l'admettre.
Mais ouais. Et tu vois, c'est pas personnel et c'est professionnel, c'est quelque chose, je crois, d'assez important. C'est que, à la différence d'une famille, dans laquelle, en fait, là, tu dois, à un moment, même quand quelqu'un va très mal et devient potentiellement quelqu'un que tu dois supporter, dans plein de sens du terme, dans une entreprise, il y a un moment où la responsabilité du dirigeant est de se dire, écoutez, soit toute cette partie de l'entreprise, soit tout ça, soit ça, on arrête, ça fait partie du courage. Et c'est pas personnel, c'est professionnel.
Et c'est être capable de l'assumer, de le dire aux personnes aussi, les yeux dans les yeux. Et comme tu lis dans des moments que j'ai connus aussi dans ma carrière, pas simple, de personnes que tu aimes en tant que personne, que tu respectes énormément, que tu as peut-être sûrement embauché toi-même en plus.
Exactement.
Annoncer de mauvaises nouvelles n'est jamais agréable pour un dirigeant. Mais ça fait partie de son travail. Et il y a des façons de le faire qui sont plus ou moins appropriées. Face à de mauvaises nouvelles, prendre les devants est essentiel. En restant ouvert et en acceptant les émotions exprimées par les autres personnes face à vous, vous allez permettre un véritable dialogue.
On a fini le quiz, mais bon, j'adore ces citations. Voilà, version longue, mais allez voir le film Les Trois. Cosa Vostra et tes podcasts, dont on parlera dans quelques minutes, sont des entreprises de génération de contenu. On a commencé déjà à aborder ça un petit peu avec les photos, qui mêlent finalement la tech, la créativité. Aujourd'hui, tu l'as déjà prononcé plusieurs fois, tu utilises ChatGPT, peut-être Copilot aussi, GitHub, voilà, pour les développeurs, les devs, côté Cosa Vostra. Donc, on voit que ça va agiter, ça agite dès maintenant, cet univers du contenu de sa génération, que ce soit du texte, de la vidéo, des sens même. C'est la partie science cognitive de l'IA. Et donc, tu l'as dit récemment, et je te rejoins, nous passons d'une ère du contenu généralisateur à une ère du contenu généré par l'IA. Alors, ça veut dire qu'en 2025, ça te donne un peu de temps pour réfléchir, Cosa Vostra va ressembler à quoi, Mathieu?
Écoute, c'est une très bonne question.
Ou ta vision.
J'essaye d'impliquer vraiment tout le monde là-dedans, dans l'usage, parce que dans nos métiers, on a trois grands métiers, le conseil, le dev, le design, l'UX et la création de contenu. Et dans ces trois métiers, l'IA va avoir un impact très fort. Donc, je pousse tout le monde à l'utiliser. Je suis un peu passé partout à leur dire il faut, allez-y. À un moment, j'ai saoulé les gens. Donc, j'essaie d'être plus sûr de l'exemple. Même sur le côté sales, tu vois, j'ai eu une ou deux fois des choses où on a fait des. J'ai pu prouver. Donc, quand tu prouves, en leur disant écoute, je vais pas te briefer toi, je vais plutôt briefer ChatGPT pour lui dire on va faire ça, comme ça, comme ça. Et puis après, toi, tu feras ton boulot over the top.
Briefing par rapport à un client, c'est ça par rapport à problématique client, solution. D'accord.
Exactement. Et ça m'a pondu des slides qui étaient quand même vraiment très bien. Alors, le prompt était assez complexe, voilà. Donc, je veux vraiment qu'on utilise ça comme un compagnon, comme un copilote.
Copilote.
Je crois que l'IA a besoin qu'on continue à produire du contenu en tant qu'humain, parce que sinon, à la fin, on va avoir un problème de serpent qui se mord la queue.
Si l'IA ne boucle sans arrêt sur la même.
Exactement. il va y avoir un besoin toujours de créativité, d'originalité dans le contenu qu'on va créer. Et je crois que ça va nous amener dans des univers créatifs incroyables. Ça me fascine. J'ai des hauts, des bas dans les usages, parce qu'il y a des choses que je pouvais faire il y a 6 mois sur ChatGPT que je peux plus faire aujourd'hui. Il y a des choses en termes d'image que je trouve extraordinaires, et puis la fois d'après, je trouve ça nul. voilà, je pense que ça va quand même nous épargner pas mal de choses vraiment, vraiment très, très reloues, tu vois, dans les analyses, dans nos métiers avec Alvo d'analyse de données. Ça va vraiment être quelque chose. Est-ce que vraiment l'homme est fait pour. Alors, on l'a vu, le travail à la chaîne, c'est quand même un truc très, très aliénant. Mais est-ce que le. Excuse-moi, là, je vais parler d'outils Microsoft, PowerPoint ou Excel. Est-ce qu'on est fait pour passer notre journée à remplir des fichiers PowerPoint ou remplir des fichiers Excel?
Pas vraiment.
Est-ce que c'est vraiment
pas
ça
vraiment.
Le truc le plus épanouissant?
Non, c'est pas ça le plus épanouissant.
Moi, je pense que être avec le penser, dire, OK, je voudrais présenter ça, je voudrais, mon idée, c'est ça, je vais utiliser ça comme support.
Et qui te bâtisse le modèle.
Exactement. Et quand je serai en réunion avec Jean-Philippe, je vais pouvoir utiliser ça pour te prouver ou t'expliquer
comme support
mon point,
de mon point de vue.
C'est super. Mais avoir des pisseurs de code, des pisseurs de fichiers Excel et des pisseurs de PowerPoint, en fait, je crois pas que ce soit une fin en soi. Et aujourd'hui, je crois qu'à un moment, entre les années 2000 et 2010, on est arrivé à peu près à ce
la limite de ça.
Et je crois que c'est assez cool et assez satisfaisant de se dire qu'on va peut-être aller au-delà de ça.
Très excitant. J'aimerais qu'on progresse, que le temps passe vite. J'ai un format plus... Non, pas du tout. Et donc, le 22 février 2017, tu lances ton podcast Génération Do It Yourself. À ce jour, tu as plus de 362, 63, 64 épisodes, mais c'est impressionnant. Tu as été d'abord l'un des tout premiers à démarrer ton podcast en France, avec une tonalité particulière, une durée assez longue, il faut le dire. Mm-hmm. Donc, ça se consomme des fois en plusieurs morceaux, mais ça se consomme vraiment bien. Des échanges très détaillés et surtout très personnels. Et comme toi, je prends énormément de plaisir à préparer d'abord ces rencontres, comme la tienne. Je t'écoutais, mais je te connaissais pas forcément, donc j'ai essayé de récupérer des discussions que tu as eues, des points de vue à droite à gauche, et de découvrir des personnalités extraordinaires finalement qu'on a l'occasion de voir, qui partagent des leçons de vie, des tragédies, des leçons personnelles et professionnelles incroyables. Et d'ailleurs, dans ton teaser un peu de GDIY, Generation Do It Yourself, vous êtes la moyenne des gens que vous rencontrez. Voilà. Et donc, après maintenant presque 6 ans de podcast, quoi, où en est ta moyenne, Mathieu? Quelle est ta moyenne?
Écoute, moi, je serais prétentieux de dire qu'elle a beaucoup augmenté, mais tu ressens. Je crois que alors déjà, j'ai évolué sur le rapport à l'ego et à pas mal de choses. C'est-à-dire que j'assume beaucoup plus. J'avais beaucoup de syndrome de l'imposteur et beaucoup de choses comme ça. Et aujourd'hui, je m'estime pas meilleur que les autres. C'est important. C'est là où l'ego a un problème. C'est que, je m'estime meilleur là où je voulais l'être. Et surtout, je vais dire, le plus important, c'est que je suis plus aligné, plus équilibré et plus heureux. Mais pour finir, tu vois, je pense au moins que Génération Do It Yourself, en allant chercher chez toutes ces personnes extraordinaires, c'est ma thèse, comment tu deviens le meilleur dans ton domaine, en te lançant toi-même solo à un moment, c'est là où je te dis que ça, mon rapport à l'ego a changé, parce que c'est vraiment ça, c'est filigrane.
Ça t'a relativisé également ta propre dimension personnelle, la manière dont tu l'as vivée, tu l'as projetée, et en écoutant les autres.
Tous ceux qui l'écoutent en ont une interprétation différente.
Totalement.
C'est ce qui est intéressant.
Et c'est intéressant ce que dit Mathieu sur la façon dont sa relation avec son ego a changé. Et cela nous ramène à cette idée de ne pas se comparer aux autres, de ne pas être jaloux. Vous voyez, la jalousie naît lorsque notre ego se sent menacé. Et ce sentiment va mettre en péril l'estime et l'image que l'on a de soi, et en conséquence, notre relation avec les autres. Ce n'est pas quelque chose que nous développons à l'âge adulte, mais quelque chose qui grandit avec nous depuis l'enfance et qui est nourri par nous et aussi par tous ceux qui nous entourent. Ce qui nourrit notre ego, c'est l'idéal que l'on se fait de soi-même en tant qu'entité indépendante, unique, autonome. Et bien qu'il n'y ait rien de mal à cela, et bien avoir un ego surdimensionné peut faire beaucoup plus de mal que de bien.
Un ou deux qui t'ont profondément marqué.
Catherine Pinvin, qui doit être l'épisode numéro 40, qui est une femme qui te fait comprendre que à 22 ans, elle était à son deuxième business, alors qu'elle avait 4 enfants, qu'elle n'avait pas vraiment le choix, et qu'en fait, là, tu te dis, mais tout est possible. Quoi, c'est que dans ma tête.
C'est que dans ma tête.
Ouais, complètement. Edgar Gros-Piron sur la motivation. Récemment, Alex Boisiz, d'une boîte qui s'appelle Deal, D-E-E-L, qui a monté une boîte en 4 ans, qui vaut 12 milliards, qui a 4400 employés, qui fait plus de 400 millions de chiffre d'affaires. C'est incroyable.
Je peux
en sortir plein.
Alors, on va continuer sur le podcast, mais on va continuer aussi sur tout ton succès entrepreneurial, Mathieu, et la croissance de tes structures. On en parlait un petit peu en déjeunant ensemble tout à l'heure. Une lecture, je pense qu'on a en commun, de Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn. Dans l'un de ses livres à succès, Blitzscaling, qu'on peut essayer de traduire en français par l'hypercroissance ou la croissance éclair. La croissance éclair. Il parle du rôle du fondateur qui change à chaque étape. Voilà. Et il a, je suis désolé pour nos auditeurs, parce que c'est vrai, ça a l'air un peu fastidieux, mais il a 5 étapes. Mais vous allez comprendre, c'est assez rapide et c'est assez, j'ai presque mathématique, mais il y a de bons symboles. Étape 1, c'est la famille, de 1 à 9. Voilà. Là, le fondateur, il opère les leviers de la croissance. Il est aux manettes. Étape 2, c'est la tribu, de 10 à 99. Le fondateur, il gère les personnes qui actionnent les leviers. Étape 3, c'est le village. De 100 à 999, je veux dire, c'est très INSEE. Le fondateur conçoit une organisation qui additionne les leviers. Étape 4, c'est la ville. 1000 à 9999, le fondateur prend des décisions de haut niveau sur les objectifs, les stratégies. Voilà, il est plus dans le high level, comme on dit. Étape 5, le fondateur de la nation. Oui. 10 000 et plus trouve un moyen d'arrêter l'organisation de la mise à l'échelle et de commencer à mettre à l'échelle de nouvelles lignes de produits, de nouvelles unités, de nouveaux business, de nouvelles inventions. Alors, est-ce que tu es un chef de tribu, un chef de village, ou autre chose, tout simplement, quel type de fondateur es-tu, Mathieu ?
Moi, je suis clairement pas un chef de ville, peut-être village.
Ouais.
Moi, je m'éclate dans la créativité beaucoup plus que dans
la gestion.
En fait,
management.
Tu vois, là-dedans, il y a
on
des
va parler
notions
de management après. Hein,
de,
donc,
des notions de ville, en fait.
Oui,
il y a,
oui,
il y a une question. T'es un peu un maire de ville.
Ouais,
moi, être maire d'une ville, c'est un cauchemar
ça
pour moi. C'est le truc qui me fait. Je me dis, mais c'est vraiment le.
Même temps, quand tu parles à des maires, tu vois, c'est marrant. J'en rencontre de temps en temps, pas souvent, mais ils te disent que c'est le meilleur échelon pour avoir un impact réellement dans la vie politique.
Attends, et je respecte, j'ai le plus grand respect.
Oui. Oui.
Je connais un peu le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, mais ce mec me fascine.
Oui.
Genre, je dis pas que...
Oui.
C'est juste que moi, si je me mets
mais
je peux mourir. C'est affreux. Mais rien ne me fait relire. Et puis avoir... Tu sais, j'ai l'impression que tu dois tellement essayer de satisfaire tout le monde, une forme d'abnégation totale. Et moi, je vis, et c'est pour ça que je m'éclate dans le podcast.
Tu es un créatif.
De curiosité.
Dans une tribu.
Ouais.
C'est un peu ça?
Oui.
Dans le même livre, Reid Hoffman parle de 9 règles. Alors, c'est beaucoup, je sais, contre-intuitive de l'hypercroissance. Volontaire, ça choque quand on les entend, quand on n'est pas entrepreneur. On se dit, embrasser le chaos. Embaucher des gens tout de suite, même s'ils ne sont pas forcément les meilleurs. Tolérer une mauvaise gestion. Lancer un produit qui vous met dans l'embarras. Laisser brûler les feux qui
brûlent,
faire des choses qui ne sont pas évolutives, ignorer vos clients, lever trop d'argent, ça je crois que tu as aussi une opinion là-dessus, et faire évoluer votre culture. Lesquels, si on prend les deux ou trois là-dessus, je te laisse regarder parce que tu aurais tendance à choisir si tu veux, voilà.
Alors, embrasser le chaos, mais clairement.
Oui.
C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un. Mais c'est très dur pour les gens qui t'entourent, en revanche.
C'est clair.
Moi, je suis très fort là-dedans, et en revanche, ça peut être un vrai.
Très déstabilisateur et très perturbateur, bien sûr.
Je ne suis pas habitué, en fait. Voilà. Et si tu me couples ça avec tolérer une mauvaise gestion, les gens se disent, mais ces mecs sont nuls, en fait, tu vois, alors que non, t'es juste dans un truc beaucoup plus petit.
Complètement.
Et je dirais, lancer un produit qui vous met dans l'embarras, mais ça, c'est clair.
Et alors, ça, tu l'as fait dans ta vie d'entrepreneur. Une fois, tu le refais. Et tu assumes.
Tu n'attends
pas d'avoir le truc parfait.
Mon premier épisode de podcast,
je l'écouterai, tiens, parce que ça, j'ai pas écouté.
Et en fait, je suis totalement OK avec ça.
Oui, oui, bien sûr.
Et je crois même, je peux même l'inverser, c'est dire, c'est une forme de fierté. C'est dire, en fait, regarde.
Je l'ai fait dans cette vie-là.
Exactement.
J'ai assumé et je savais que j'allais pas être top, mais c'est comme ça.
Exactement. Et j'ai plein d'épisodes qui me mettent dans l'embarras après. Voilà, faites des choses qui sont pas évolutives, c'est clair. Ignorer vos clients, j'ai plus de mal.
Oui, ça c'est quand même très dur, je pense.
Et faites évoluer votre culture. Oui. C'est pas toujours simple, mais c'est assez important.
Bon, voilà, quelques beaux principes, je pense, qu'on retrouve dans ta vie, Mathieu, et dans tes sociétés. Si je demandais à des salariés, voilà, les gens que je vois autour dans tes bureaux aujourd'hui, quelle est la meilleure version de Mathieu Stéphanie, qu'est-ce qu'ils me diraient ?
Je pense que c'est sur la créativité.
Créativité.
C'est clair que là-dessus. Et la créativité, ça peut avoir plusieurs choses, mais le problème solving, c'est-à-dire que quand les gens viennent avec certains problèmes, je suis toujours en train de me dire, bon, il y a des solutions, on va les trouver, etc.
Tu les trouves avec eux.
J'espère qu'ils voient l'optimisme.
Oui.
Et je crois que j'ai en termes de loyauté, où je te disais que j'avais le sang vert pour métro, je crois que j'ai un... Tu vois, avec Cosa Vostra, avec mes collaborateurs, avec la famille, tu vois, j'ai envie de dire, on peut tout me demander. Je veux dire, je suis dédié à 100%. Et voilà. Et après aussi, dans le skin in the game, je veux dire,
tu me verras
le matin ranger le lave-vaisselle, nettoyer les trucs, faire les choses.
Moi, je t'ai vu dans la cuisine. On voit que tu fais attention.
Je fais très attention. Je vais être
exemplaire par
toujours,
rapport.
Toujours.
Écoute, je vais inverser la question parce que généralement, on aime bien poser les deux questions. Et si je leur demandais, qu'est-ce que vous aimeriez que Mathieu arrête de faire? Ça serait quoi?
Est-ce qu'ils aimeraient, mais ça, je le ferai pas. Je suis très. Tu connais Ray Dalio, probablement, peut-être, non? De près, de loin?
Oui, un petit peu de loin.
Il y a un livre qui me plaît beaucoup qu'il a écrit et sur lequel il met en avant la transparence radicale, la radical candorship. Et moi, je suis très. Je dis les choses, j'essaie de le faire avec ma forme. La mode, c'est la communication non violente, mais je dis les choses telles que je les ressens, telles que je les ressens, c'est tout de suite. Donc, j'essaie pas toujours de mettre des formes.
Tu mets pas des formes, c'est pas polissé, c'est.
Typiquement, tu vois, il y a pu y avoir des entretiens de recrutement où j'ai fait fuir des gens.
Tu leur as fait peur.
Je leur ai fait peur. En leur disant, tu sais, si tu viens, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. J'espère que t'es prêt, tu vois. Des associés, collaborateurs m'ont dit non, mais
ça se fait pas.
En fait, elle va pas venir parce que tu lui as fait peur. On me l'a déjà dit plusieurs fois. D'accord. Je pense ça, ils aimeraient bien que j'arrête.
Et moi, toi, j'ai du mal. Pas arrêter,
non, j'ai
ça.
Pas envie d'arrêter parce que je pense que je gagne des mois en fait. Tu vois, il y a un moment
je
où il y a un moment où je leur dis regarde ce qui va se passer. Et si c'est pas ok pour toi, et ben et eux souvent ils me disent non, mais c'était une star. Tu peux pas dire des choses comme ça, tu vois. Je dis bah si.
Qu'elle connaisse les règles du jeu avant de rentrer, quoi. Bon, on va avancer parce que le temps avance toujours très vite sur le leadership positif. Comme tu sais, c'est un sujet qui me passionne, que j'essaie de pratiquer depuis une dizaine d'années, qui est finalement une nouvelle conception du leadership, Mathieu, pour un impact positif auprès des autres et du monde. Alors, il se nourrit de la psychologie positive, des neurosciences, de mindfulness, du bien-être en général des gens. Et pour démarrer un leader positif, c'est une personne qui d'abord doit prendre soin d'elle, au plan physique, au plan de son sommeil, au plan cognitif, au plan mental. Alors, je sais que tu es un grand sportif, on parlait de tes parties de hockey notamment, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de tes routines, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre, chaque matin, journée, soir, pour, pas simplement physiquement, mais au plan mental, émotionnel, arriver à, pas maîtriser, mais on sent que c'est foisonnant hein, chez Mathieu, en permanence, mais surtout à générer et à manager ton énergie positive.
J'ai pu coucher sur papier, sur ma newsletter récemment, un concept que j'appelle mes règles automatiques. Et j'ai un certain nombre de règles automatiques qui peuvent être apparentées à une forme de discipline, mais qui me permettent de me libérer l'esprit sur plein de choses et aussi peut-être d'être plus heureux et plus épanoui. Et parmi lesquels, tu vas avoir... typiquement, je fais du sport tous les jours.
Tous les jours, d'accord.
Ça veut dire quoi, faire du sport tous les jours? Ça veut dire, à minima, je vais faire 10 minutes de pompée d'abdos. C'est pas du sport comme je l'entends. En gros, moi, je fais... les sports que je pratique couramment sont des sports de triathlète, donc course à pied, vélo, natation.
Même semi-marathon, j'ai compris.
Semi-marathon, je suis engagé sur deux marathons sur 2024.
Wow, ça, c'est impressionnant.
Et en fait, alors ça, c'est d'autres règles, c'est que je m'engage sur des courses tous les ans, à minima, parce que je sais que ça me donne un objectif, et donc il faut que je le fasse. Les sportifs, ils n'ont pas besoin de ça, puisqu'ils font du sport déjà. En revanche, les sportifs, eux, ce qu'ils font, et j'en ai eu pas mal podcast, c'est prépa mental, c'est en effet yoga, méditation, etc. Et en fait, ça, je me dis, mais il faut absolument faire ça. T'as fait des coachings, toi?
Oui.
Alors, j'ai eu des coachs. Je vais en refaire hein, bientôt, parce que là, je me sens prêt ou demandeur.
Oui, bien sûr.
Et en fait, en effet, j'ai appris à dormir, notamment, parce que je dormais très peu.
Ça, c'est important. Tu vois, ça fait 3 ans, je suis le préméditateur de la Bagoura de la génération. Parce que j'ai méprisé mon sommeil pendant tant d'années. J'étais aux quatre coins du monde à voyager. Mais j'ai un bon sommeil, en généralement. Et là, j'ai décidé tardivement, je le dis à tous mes auditeurs, commencer très jeune, à respecter votre sommeil. C'est tellement important.
Et et tu es derrière, tu es plus efficace. Je crois que tu es plus heureux.
Ça change totalement. Totalement.
Moi, tu vois, je suis moins... J'ai deux montres.
Oui, non, je sais qu'il y a des montres.
J'ai ma Garmin. Et donc, du coup, l'idée, c'est de me dire, en fait... que je veux, tu vois, je sais que là, la nuit dernière, j'ai un score de 92, qui est exceptionnel pour Garmin, parce que ça arrive jamais de faire plus de 90.
Déjà, Oura, ça serait énorme. 92, je peux dire, quand tu as 80,
en fait,
déjà.
Quand j'arrive aujourd'hui, je comprends que je monitore tout ça. Et ça a changé ma vie. Et donc, voilà, j'ai un trio, qui est sommeil, nutrition.
Sommeil, nutrition aussi, bien sûr.
Et sport. Nutrition, je mange très peu de sucré. Je mange très peu de sucre lent aussi. C'est vraiment, je fais attention aux protéines et à tout ça. J'essaie de me rapprocher. Tu as lu Sapiens, probablement.
Oui, oui.
de me rapprocher des régimes plus, je suis pas non plus sur un régime drastique, mais voilà. Et après, voilà, tout un tas de règles. Il y en a qui peuvent pas être un peu, je teste des choses, je me fais au moins un repas vegan par semaine.
D'accord.
Je déjeune tous les midis avec des personnalités oui, business avec qui je rencontre, mais je ne fais pas un déjeuner solo dans mon ordi. J'ai mes podcasts le mardi matin et le jeudi matin, etc. Tout est super réglé.
Super réglé,
ce qui fait que le reste du temps, en fait, quand j'ai mes zones de... Eh ben, en fait, je fais ce que je veux. C'est hyper épanouissant.
J'ai ma famille, etc. Tu as des jeunes enfants et tout le reste. Alors, on avance.
Je suis en train d'ajouter une dernière chose en ce moment. Mais c'est m'embête parce que j'envoie ma newsletter le dimanche matin.
D'accord.
Mais... le dimanche, je crois que je vais repousser au maximum 14h-15h le mode avion.
Le mode avion, d'accord.
De mon téléphone, je vais le pousser jusqu'au plus loin parce qu'en fait, je l'ai fait là une ou deux fois d'affilée.
C'est sacrément...
Et en fait, je passe une journée pleinement en famille, je fais du sport, je fais des choses. J'ai plus de distractions.
Ouais, totalement.
C'est tellement fou ce que ça nous fait, ces petits appareils.
Oui, non, mais je te rejoins là-dessus et c'est bien
sinon, il faudra peut-être le pousser jusqu'au dimanche entier.
Reprendre la maîtrise là-dessus aussi. Alors, dans le modèle de la psychologie positive, j'ai le grand honneur d'avoir le maître fondateur, il s'appelle Martin Seligman. L'épisode sera bientôt posté, partagé. Je t'incite, si tu as envie de creuser le sujet, parce que c'est une personnalité incroyable. Il avait développé un modèle qui est toujours utilisé qui s'appelle PERMA. Alors, je le dis rapidement, c'est PERMA, P-E-R-M-A, tu as peut-être entendu parler.
Ouais.
P pour positivité, tout simplement, émotion positive. E pour l'engagement, d'accord ? Donc, c'est l'engagement total que l'on a avec le soi, avec les autres. Ensuite, R pour les relations qu'on crée avec les autres. M, alors c'est en anglais pour meaning, d'accord ? Ou en français, on dirait le S comme sens, peut-être.
Ouais.
Et puis le A pour accomplissement. Et en fait, extrêmement complet, je trouve. Et bon, okay, un modèle sur lequel j'ai pas mal travaillé aussi, pour comprendre finalement, améliorer le bien-être psychologique en se concentrant sur ces 5 domaines clés. Et c'est un moyen, quelque part, de mesurer le bonheur aussi. Ça paraît hypothétique, mais il y a pas mal de chercheurs dans le domaine psychologie et autres qui sont penchés là-dessus, à titre personnel, voire même au titre de nation, des fois. Donc, j'aimerais approfondir avec toi le quatrième pilier de PERMA, M, meaning. Voilà, parce que moi, je suis beaucoup dans le sens, dans le pourquoi on est là, finalement. Et je le ressens avec des entrepreneurs de la communauté Live for Good, je le sens avec des gens que j'ai le plaisir de rencontrer parce que j'ai choisi, comme toi. Donc, c'est un vrai privilège. J'allais dire, pour toi, ça veut dire quoi ? Quel est ce sens ? Quel est le pourquoi de Mathieu Stéphanie ?
C'est intéressant parce que il a fallu que je marche ou que je cours pour le trouver.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, un Simon Sinek qui va te dire commencer par le pourquoi.
Oui, oui.
Et je crois que j'y arrivais pas complètement. J'avais besoin de tester plein de choses pour comprendre ce pourquoi. Ouais. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en testant plein de choses et en les documentant publiquement, parce que je mets beaucoup de skin in the game dans mes podcasts.
Ouais.
Tu vois, je te parlais de karma tout à l'heure. Les deux grands drivers pour moi, c'est les quelques grands drivers, mais karma / confiance et le skin in the game, l'implication, sont vraiment des choses qui sont très importantes. Et en fait, pouvoir dire, regarde, moi, je fais mes contenus, je vous propose quelque chose de très authentique, je suis le cobaye de ma propre vie.
Ouais. Ouais.
Est-ce que ça, et dans quelle mesure, on peut... arriver avec cette envie dans une grosse boîte. T'as géré combien de personnes au maximum, toi ?
35 000.
Donc, une petite ville, une grosse bourgade de province, Comment est-ce que est-ce que c'est possible d'avoir cet impact positif, d'emmener les gens et comment ?
Alors, je pense profondément. Alors ça serait peut-être l'objet d'un podcast dédié à ça. Dans la mesure où tu connectes ton pourquoi, finalement, un petit peu ce que j'appelle d'ailleurs dans des épisodes de leadership positif, ce qui a été créé par d'autres, la mission personnelle. C'est quoi ta mission ?
Donc,
ma mission personnelle ? Oui,
à
de
toi,
mon pourquoi.
Pas celui de
non,
ton entreprise.
De mon pourquoi à celui de l'entreprise ou l'organisation pour laquelle tu bosses. Et tu sais très bien comme moi, parce que tu le vois dans le phénomène entrepreneurial, les entrepreneurs, hommes ou femmes, qui font des choses prodigieuses, et moi j'adore cette jeunesse, je les appelle les entrepreneurs, c'est une nouvelle génération de leaders positifs qui entreprennent pour le bien commun, c'est comme ça que je les appelle, notre communauté Live for Good. C'est des jeunes incroyables qui ont en eux une conviction très forte, une mission, pourquoi ils sont là, et qui la transcrivent et qui la vivent au quotidien en entreprise. Et dans une grande boîte comme Microsoft, pour revenir maintenant à un univers totalement différent, j'ai eu cette chance extraordinaire, peut-être parce que j'ai démarré quand c'était une start-up aussi, alors j'ai peut-être gardé de l'ADN de start-upper en moi, d'avoir eu toujours des managers et des gens incroyables qui ont été au-dessus de moi, hein, parce que j'ai jamais été le CEO de la boîte, je reporte au CEO, mais voilà, et qui, quelque part, m'ont donné une autonomie pour réaliser la mission de l'entreprise avec des objectifs très concrets. Hein, ouais. Il fallait délivrer des quarters, etc. On n'est pas dans... On est dans une entreprise, clairement, au plan économique financier, mais d'avoir la capacité de m'exprimer moi-même et de me faire plaisir.
Et d'avoir la capacité de trébucher ?
Oui, bien sûr, j'ai fait des erreurs aussi, évidemment. Je me suis planté.
Des belles erreurs, des belles grosses erreurs ?
Des erreurs, j'ai pu m'en relever, sinon je ne serais plus là, je pense, pour en parler. Mais à nouveau, ça serait peut-être un plus long épisode, ouais. Mais voilà, moi j'ai réussi. Et d'ailleurs, c'était un bel épisode que j'ai dans le podcast avec Satya, bien sûr. Ouais, Satya Nadella, le CEO pour nos auditeurs, où il disait la chose la plus simple, qui pour moi est tellement vraie. N'attends pas ton prochain job, quel qu'il soit, pour donner la meilleure version de toi-même. Mmh. Ouais, et c'est vraiment ça. Et moi, je pense, en t'écoutant depuis le début, sur métro, etc., tu as donné chaque fois le meilleur de toi-même dans ce que tu as choisi de faire. Et moi, si je suis resté, ce qui paraît être un dinosaure chez Microsoft, bientôt 40 ans, le 2 mai prochain, c'est parce que c'est une plateforme de mon développement, de mon impact personnel qui était extraordinaire. Alors, j'ai la possibilité de le faire à l'extérieur aussi, et j'adore. Mais voilà, maintenant, on va conclure avec ta question. Que souhaites-tu dire? Donc, tu t'adresses maintenant à tous les jeunes, notamment qui écoutent ce podcast. Il y en a pas mal, aux quatre coins de la France et ailleurs francophone, parce que j'ai une audience aussi globale dans plein de pays du monde, mais ça sera en français, et qui souhaitent devenir entrepreneurs de leur vie. Hein, je reprends les termes que j'utilise souvent. Que souhaites-tu leur dire sur la manière de s'épanouir, de s'éclater dans cette recherche, sans tomber non plus dans l'obsession de rechercher absolument la meilleure version de soi-même? Parce que je pense qu'il peut y avoir un danger de ça aussi, un certain nombre d'acteurs ou qui drive. C'est quoi ta formule de cet épanouissement ?
Tu as totalement raison sur ce petit warning, c'est qu'il faut, je pense, être bienveillant avec soi-même, quelque part. En revanche, si tu veux y aller, tu dois rentrer dans l'action. Et rentrer dans l'action, ça veut dire faire des choses, mais souvent c'est au quotidien. Ça ne doit pas être toutes les semaines ou tous les mois, c'est vraiment au quotidien pour rentrer dans cette action et idéalement avoir des deadlines. N'aie pas peur. En fait, il n'y a pas grand-chose.
Quel est l'enjeu?
Vas perdre ton job, tu vas devoir vendre ton appart, tu vas voir. Et alors, en vrai, est-ce que vraiment c'est parce que tu as un appart qui fait 110 mètres carrés dans le 16e que tu es plus heureux ou dans tel ou. Non, en fait, c'est pas parce que. Donc, choisis bien, va te faire coacher ou va, mais surtout fais des choses.
Mais fais des choses. Apprends en faisant.
Ouais.
Ce fut un moment extraordinaire, un véritable cocktail de karma, de créativité, de confiance, la famille Corleone et la Cosa Nostra. La philosophie de Mathieu est toujours d'actualité. La vie est courte, profitez-en au maximum. L'esprit est un outil puissant. Lorsque nous l'exploitons, lorsque nous l'écoutons, des choses extraordinaires peuvent se produire.
Et où j'ai vraiment senti en toi ce leader positif que je recherche dans chacun de mes invités. Et en tout cas, un grand merci de nous accueillir dans tes super locaux et surtout inspirants. Et puis toi, de continuer à t'écouter dans tes podcasts, parce que je pense que tu fais un travail incroyable pour des millions de personnes qui vont oser faire. Un grand merci Mathieu.
Merci beaucoup.
Merci.
Je suis Jean-Philippe Courtois. C'était le podcast Positive Leadership. Je voudrais que cette histoire soit entendu par le plus de monde possible et bien sûr vous pouvez y contribuer, donc n'hésitez pas à écrire vos commentaires ou de partager vos avis et ainsi de le faire savoir à vos amis et vos relations.